Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, alors, l'explosion de la violence à Montréal, Mme Plante, Mme Guilbeault, M. Legault ont tenu hier à rassurer les citoyens. La question ce matin, êtes-vous rassuré, Luc?
Écoute, en campagne électorale, c'est beau de voir ça. Puis c'est beau de voir ça quand il y a des grands événements comme celui-là, mais ça fait 4 ans qu'on parle de la montée de la violence à Montréal. Depuis que je suis en onde, moi, on en parle de la montée. Ouais. On faisait des comparaisons entre Montréal puis Toronto, etc., le trafic des armes. Fait que il y avait du temps en masse. Et la situation, là, c'est pas compliqué. C'est une situation reliée aux armes. Point final. C'est pas parce que comme si les jeunes étaient devenus plus fous, là. Parce que moi, j'étais maire pendant 10 ans. Pendant 10 ans que j'étais maire, il y avait une personne par semaine qui se faisait poignarder. Mais il y avait moins d'armes. Il y avait beaucoup moins d'armes. L'autre affaire, c'est que... Bon, donc, tu donnes un certain nombre de personnes des armes. Là-dedans, il y a des fous. C'est sûr que ça va se traduire par des coups de feu. La violence n'a pas augmenté. On l'a vu hier avec les chiffres. La violence, on a regardé les chiffres sur 10 ans, etc. C'est plutôt en diminution en termes de nombre de meurtres. Ce qui fait peur, c'est les 75... événements armés, dont un, mettons, avec 80 coups de feu. Et ce qui fait en particulier beaucoup plus peur, c'est le scoring, cette habitude de tirer n'importe où, y compris sur des personnes qui n'ont rien fait. Et donc, on se dit, ça pourrait être moi. Puis il y a la question des balles perdues aussi, mais le scoring, c'est bien plus épeurant que les balles perdues. Alors maintenant qu'on sait tout ça, là, maintenant que tout le monde le sait, là, on arrête d'en parler, on arrête de s'indigner, on arrête de s'inquiéter, puis on vise des solutions. C'est quoi les solutions? Les solutions, là, interpellation. Interpellation, interpellation. Je regrette. C'est dommage, c'est comme ça. Ça va générer du profilage racial. Ça va générer beaucoup de faux pas. Mais il faut le faire. Il faut pas juste le faire. Il faut le faire dans le respect. Si jamais on interpelle quelqu'un qu'on s'est trompé, il faut le faire dans l'hyper-respect. Mais il faut le faire pareil parce que, comme l'expliquait le directeur adjoint de la Sûreté du Québec hier, c'est pas juste les escouades spécialisées qui ont trouvé le problème, c'est les patrouilleurs. C'est quand les patrouilleurs patrouillent puis qu'ils trouvent qu'une personne est pas en train de respecter ses conditions, ou une autre personne ne devrait pas être en compagnie de telle autre personne, ou il se trouve qu'elle avait une arme dans sa voiture, c'est souvent les patrouilleurs. Fait que si t'enlèves des patrouilleurs pour créer des escouades, tu vas nulle part.
Ben c'est un tout, moi je dirais, les patrouilleurs, enquêteurs, organismes communautaires, en fait, ça prend une concertation, là, jamais vue à Montréal. À ta question, Paul, est-ce que la mairesse vous a été rassurante hier? Je dirais qu'elle a été rassurante en partie parce qu'il y a un certain nombre de doute qui subsiste. Le premier, c'est ce doute qui perdure sur l'appui réel de l'administration de Valérie Plante à l'endroit des policiers du SPVM. Est-ce que Valérie Plante appuie véritablement ses policiers? Puis si oui, comment ça se traduit? Deuxièmement, le doute subsiste également sur la capacité de son équipe à faire preuve de proactivité. En fait, on a l'impression que la mairesse, c'est toujours en réaction aux événements. Il arrive un meurtre, une conférence de presse. Un autre meurtre, une autre conférence de presse. Hier, j'entendais Annie Sanson sur le plateau de Patrice Roy, Radio-Canada, qui rappelait que la conférence de presse a débuté avec 44 minutes de retard. Ça donne l'impression qu'il y a une espèce d'improvisation, de cafouillage quant à l'enjeu numéro un à Montréal, qui est celui de la violence par arme à feu. Donc ça, c'est les doutes qui subsistent. Elle a été rassurante, selon moi, parce qu'elle a dit hier, elle a dit, j'ai parlé au premier ministre Justin Trudeau sur l'importance de lutter contre les armes de poing, d'interdire les armes de poing. J'ai parlé à François Legault, j'ai parlé à Geneviève Guilbeault. J'ai besoin de plus de ressources financières, nous a-t-elle dit hier. Ça veut dire probablement plus de policiers. Elle a posé un certain nombre de gestes hier. Elle a même dit, elle a fait des déclarations choc, là. Elle a dit, écoutez, Montréal ne deviendra pas le terrain de jeu du crime organisé. Puis elle a reconnu aussi, c'est la première fois qu'elle le fait, Luc, et Paul, peut-être que vous confirmerez ou infirmerez ce que je vais dire, mais c'est la première fois qu'elle admet que le sentiment de sécurité est affecté. Elle a dit dans la même phrase, le sentiment de sécurité est affecté. Par contre, Montréal demeure une ville sécuritaire. Maintenant, la question, ça rejoint ce que tu disais, où est le plan? Où est le plan? On crée l'escouade Centaure, Québec accorde 200 millions, Ottawa 44, mais c'est quoi le plan? Les actions, la vision, 1, 2, 3, 4, comprends-tu?
1, 2, 3, 4. 1, interdiction des armes, interdiction des armes de poing. Pas arme de poing peut être possédée dans ton véhicule, dans une boîte. Non, non, interdiction des armes de poing, point final. Je sais que les tireurs qui font du tir au pistolet vont se sentir visés inutilement. C'est correct. On peut se passer du sport. Moi, j'en ai fait d'ailleurs du tir au pistolet. Je suis désolé. Si un sport qui a un effet secondaire, ben l'effet secondaire, c'est que c'est plus difficile de faire des interpellations quand l'arme de poing est permise, parce que la personne peut toujours arguer. Oui, mais j'ai un permis ou j'ai pas le permis. J'avais plus le permis. T'as une arme de poing dans ta voiture, c'est illégal, point final. Deuxième affaire, augmentation du nombre de patrouilleurs, on l'a dit. Augmentation du nombre d'heures de nuit. Augmentation du nombre d'heures d'été. Les policiers disent, nous autres, on a besoin de plus de ressources. Ouais, mais quand tu regardes la fiche des policiers disponibles pour l'été, puis l'été de nuit, c'est pas mal plus faible. Ensuite de ça, augmentation du nombre de procureurs, des procureurs dans les équipes. C'est ça qu'ils ont fait à Toronto, c'est-à-dire une escouade avec des patrouilleurs et des inspecteurs et des procureurs pour pouvoir traiter les cas plus rapidement, des 11 mois avant interpellation. Après interpellation, là, 11 mois avant le traitement du dossier en cours, là, ça n'a aucun maudit bon sens. Augmentation de l'écoute. Beaucoup d'écoute. Faire de la auprès des gangs ce qu'on a fait auprès des grands groupes criminalisés, de l'écoute électronique. Augmentation de la présence.
Le renseignement, l'importance du renseignement.
Et pour le renseignement, il faut que la police soit proche de la communauté. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit acceptée par la communauté. Fait que ça, c'est tout un travail de rapprochement.
N'oublie
aussi
pas dans ton équation la prévention avec les organismes communautaires, parce qu'eux, ils font un travail absolument essentiel sur le terrain. Ce qui m'a frappé hier dans la conférence de presse, c'est la déclaration de Sophie Roy, qui était à ton micro, la directrice du SPVM, intérimaire, elle a demandé le soutien de la population à la police. Avec l'expérience que tu as, Paul, moi, je n'ai pas souvenir qu'un chef du SPVM ait fait un appel de ce type à la population. C'est donc dire qu'on sent qu'une espèce de césure qui est en train de s'opérer, où le lien de confiance s'effrite de plus en plus entre la population à Montréal et ses policiers.
Non, mais moi, je vais te résumer ça de la façon suivante. Les policiers se sentent pas appuyés par Valérie Plante. À beau dire, là, dans tous ces discours, là, ils sentent pas cet appui-là, un. Deux, avec tout ce qui s'est passé, là, les cas de Floyd aux États-Unis, les gens ont l'impression que les policiers sont tous des batteurs de citoyens, puis ils rêvent d'abattre des gens, ce qui est pas le cas. Non, mais cette perception, ils marchent dans la rue, ils sont dans leur voiture, ils se font engueuler. T'interceptes quelqu'un, moi je vais donner un exemple là, de quelqu'un, un policier qui me raconte, infraction au code de la route, intercepte le véhicule, deux gars sortent, un filme, puis l'autre dit, viens me chercher. Tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi comme policier? Tu dis, là, il va me filmer, c'est moi qui vais avoir l'air du gars qui est en train de le frapper ou qui essaie...
En fait, on remet en question l'autorité des forces policières.
Pas tout le monde.
Pas tout le monde,
mais un certain nombre de puis un bon nombre de citoyens ont une attitude négative face à la police.
Ben, est-ce qu'on peut... moi, je peux-tu impliquer un autre groupe là-dedans? Vas-y. Les médias. On en fait partie, nous, des médias?
Absolument.
Dès qu'une vidéo sort qu'on a filmé un policier en train de faire une arrestation, il y a 40 journalistes qui disent « Oh my God, c'était-tu de la violence, ça? Oh mon Dieu! » Premièrement, cette vidéo-là, dis-toi que s'il a été mis sur YouTube, il a été mis sur YouTube par une personne qui voulait filmer ça et rien d'autre. Donc, d'abord, est-ce que cette pièce à conviction est représentative de ce qui s'est passé? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, as-tu déjà essayé d'arrêter quelqu'un, toi, de mettre ton corps sur une personne puis de l'empêcher de bouger? Quand tu auras fait ça, tu me diras c'est quoi la façon de faire, puis si c'est si facile que ça, puis tu peux y aller juste avec des rubans roses.
Mais
c'est très difficile de faire une arrestation.
Ouais. Mais hier, Luc, il s'est passé quelque chose à Montréal. Moi, je pense qu'il y a eu un avant et un après. Et c'est dommage parce que ça a repris 6 ados de moins de... En fait, 6 mineurs qui se sont fait tuer par balle à Montréal en 18 mois avant que la mairesse bouge, je comprends. 6 ados morts à Montréal en 18 mois sous les balles. 75 meurtres, tu l'as dit un peu plus tôt, depuis le début de l'année. Ça, c'est un meurtre à tous les 3 jours. Mais là, parce que le crime organisé...
75 événements de coup de feu.
75 événements de coup de feu, effectivement. parce que là, la mairesse, parce que le crime organisé se fait la guerre en pleine rue, là, on dirait que l'administration vient de se réveiller. Alors, Paul, effectivement, vivement de l'action et sa presse.
Pause. Au retour, on va parler du retour en classe. On voit que c'est chaotique, évidemment. Manque de profs, puis une trouvaille dans une école, c'est prof à distance pendant un an. Puis les élèves dans la classe. Mais ça se fera pas, là. Ils ont apporté le correctif.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
La commission Normando-Ferrandaise.
Rentrée scolaire marquée par les problèmes habituels, les problèmes de pénurie d'enseignants, de transport scolaire cette année. Et puis, on a un cas qui nous est apparu à Terrebonne, assez aberrant, qui est pour les élèves de cinquième année, d'avoir l'enseignante qui est enceinte, qui, pour des raisons de santé, est en virtuel. Pas pour une journée ou deux, là, pour l'ensemble de l'année, en fait, jusqu'à son départ pour son congé de maternité, alors que les élèves sont dans la classe. Donc, prof virtuel, élève dans la classe, avec une autre personne. Bon, finalement, ça se fera pas, là, il va en avoir... Mais ça, quand même, ça montre à quel point on a...
Oui, mais ça se fera pas grâce à l'intervention.
C'est parce qu'on a appelé, puis
ben
dit,
oui,
les du cabinet...
Ben oui.
Mais ce que je dis, mais c'était ça qui devait être fait, là, en disant, c'est acceptable. Compte tenu de la pénurie des enseignants.
Ben en fait, c'est pas acceptable, mais c'est aberrant. Et moi, ce qui me fascine dans cette histoire-là, c'est qu'après deux ans de pandémie, certains centres de services scolaires ou certaines directions d'école envisagent encore l'enseignement virtuel.
Ouais.
Puis là, c'est pas un enseignement virtuel ponctuel, là. Ce qui était prévu, c'est pendant une année. Et là, c'est le monde à l'envers. Les enfants en classe et l'enseignante enceinte avec des problèmes de santé qui sont liés à sa situation en virtuel et la personne qui devait accompagner et aider l'enseignante, elle aussi en virtuel. Et là, tu dis, mais ça n'a aucun bon sens. Et rappelez-vous, les appels, les nombreuses plaidoiries livrées par l'Association des pédiatres du Québec durant la pandémie qui disaient écoutez, c'est important de que les enfants soient en présentiel. Ça crée toutes sortes de situations problématiques. Là. Encore dernièrement, là, les effets, on en a discuté ici à la commission, les effets de la pandémie, entre autres, sur les jeunes du secondaire, le stress, l'anxiété, le manque de motivation. Et moi, lorsque Alexandra, la productrice de l'émission, a partagé cette histoire-là avec nous, et je me suis dit, quelle démarche a fait le centre de service scolaire, quel centre de service scolaire les affluents pour trouver un autre enseignant ou une autre enseignante? Quelles démarches ont été faites avant d'envisager un scénario comme celui-là, qui est le scénario là, extrême selon moi? Puis à quel moment la direction a été informée du départ de son enseignante? Parce que tout ça arrive, les parents ont été informés à quelques jours de la rentrée scolaire.
La semaine dernière, vendredi,
quoi, deux semaines avant la rentrée scolaire. Enfin, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le tu parlais des problèmes qui reviennent constamment lors des rentrées scolaires, dont la pénurie d'enseignants. On y reviendra parce que pour moi, c'est l'éléphant dans la pièce, mais contrairement à d'autres années, j'ai l'impression que cette année, à moins que je me trompe, là, mais que cette pénurie d'enseignants s'exprime avec plus d'acuité et plus d'intensité.
Mais la pénurie de main-d'œuvre et le télétravail ont généré un nouveau phénomène, à mon avis, qui est la disparition des normes de qualité minimale, même la disparition des services carrément, qui disparaissent en douce. Et là, il est temps de rétablir un certain nombre de choses. On comprend là qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, on comprend qu'il y a du monde en télétravail, là, mais il y a des choses qu'on dit, on ne peut pas faire ça. Là. On met pas des roues de bicycle sur un char. Tu dis, ah, il n'a plus de pneus, on va mettre une roue de bicycle. Non, on ne met pas. Ça marche pas. Il va pas rouler. Là. Tu peux pas dire à des enfants, vous allez être en virtuel, assis dans la classe jusqu'en avril. Non, c'est comme mettre une roue de bicycle sur un char. Tu peux pas, t'as pas le droit. Fais-le pas. C'est pas dans les normes. Rétablir des normes de qualité. Je sais, la personne va répondre, mais j'ai pas les ressources. OK, d'accord, maintenant, on va travailler sur les ressources. Mais on peut pas dire, ceci est
ça
un service.
Ça peut pas être une option.
Ce n'est pas une option. Et dans tous les domaines, ce n'est pas... On l'a vu avec des aéroports, là. Des avions arrivés à bon port, à bon aéroport, et attendre 45 minutes, une heure et demie, parce qu'on n'a pas amené la passerelle pour ouvrir la porte de l'avion. Non, tu peux pas. Ceci n'est pas un service. Ça marche pas. Fais ce que tu veux, là. Va chercher le directeur chez lui qui est en train de dormir, là. Mets-le sa passerelle. Puis moi j'aimerais bien ça savoir d'ailleurs si le directeur il prend son il travaille 4 jours par semaine. Il y a des fois où tu dis ceci ne se fait pas. Des urgences, on renvoie des gens, des personnes à la maison avec des antidouleurs pas suffisants, avec une sonde défectueuse qui génère de l'infection. Non, on peut pas faire ça. T'as pas le droit. Puis la personne rappelle 5 fois à l'urgence. Elle revient 2 fois en ambulance. On le renvoie chez eux. Il a toujours pas vu de médecin. Ça fait 5 jours qu'il est en souffrance. Ceci n'est pas un service. C'est un squelette de service. Il y a un nom qui est marqué service qui s'appelle urgence. Mais en dessous, il y a rien. Fait que ça, là, le gouvernement est en campagne électorale, là, puis arrêtez de nous parler de services qui ne sont que sur papier. Les cas d'attente à la DPJ, 273 jours d'attente. Mais qu'est-ce que tu veux? Après 273 jours, ça se peut que les blessures infligées à l'enfant soient moins apparentes. Ça se peut, ça.
En fait, ce que tu dis, Luc, c'est que les difficultés qu'on vit, entre autres, avec la pénurie de personnel, font en sorte que certaines commissions, centres de services scolaires font des compromis sur les normes, sur la qualité de l'enseignement. En fait, il faudrait être un petit peu plus créatif. Mais en même temps, la créativité n'est pas synonyme de niveler par le bas. Je parlais de la pénurie d'enseignants, c'est l'éléphant dans la pièce. Pour moi, il y a des aberrations qui doivent être dénoncées. Et je ne comprends pas qu'en 2022, alors qu'on a besoin d'un personnel qui est mobile sur le territoire, qu'on compose avec, par exemple, une ancienneté qui est perdue lorsqu'un enseignant change de centre de service scolaire. Ça ne me rentre pas dans la tête. Pour moi, la pénurie de travailleurs n'est pas compatible, devrait être plus compatible avec le mot mobilité. En fait, ce qui n'est pas compatible avec la mobilité, c'est les règles liées à l'ancienneté qui font en sorte que les enseignants, ben évidemment, ils vont, pour éviter de perdre leur ancienneté, ben vont être moins mobiles. Ça, c'est un.
Mais quand tu parles de l'ancienneté, oublie pas, là, les nouveaux enseignants se ramassent avec les secteurs les plus tough. Tu as moins d'expérience, mais tu as donc moins d'ancienneté, mais surtout moins d'expérience. Fait que tu te ramasses à enseigner dans des endroits où personne ne veut aller, là. Tu sais, puis que ça prendrait justement des profs d'expérience pour être capable.
Il y a 6 profs qui sont passés avant toi et qui sont restés chacun 3 semaines.
Puis s'ils sont restés au centre de service scolaire, c'est beau. Il y en a qui abandonnent. Ben oui. C'est pas. Tu sais, c'est
un. Oui, il y a plusieurs témoignages comme ça. Eh ben donc, il y a les évidemment dans les autres défis à relever ou aberrations. Là, c'est le nombre d'élèves dans les classes qui augmente d'année en année. C'est loin d'aider le travail des profs au quotidien. Pas assez de postes à temps plein pour favoriser la rétention chez les enseignants. Moi aussi, je suis fascinée par ça. Des postes à temps partiel, là, il y en a des dizaines, des centaines parfois par centre de service scolaire. Mais les postes à temps plein, toi, écoute, c'est bruit de criquet. Là. Écoute, il n'y en a pas.
Puis il n'y a pas cette histoire de stage
non
rémunéré. Là, ça arrive là. Ben voyons donc.
Mais non, mais écoute, il y a cette semaine à l'émission, il y a un ingénieur qui écrit, il y a comme 20 ans, là, j'étais aux études, les stages étaient rémunérés. Comment se fait-il qu'en enseignement, les stages ne sont pas rémunérés? Alors, on peut dire, parce que je me souviens entre autres, François Legault, qui a dit qu'il a parlé du grand redressement national en éducation. Ben, à un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. C'est-à-dire que tu peux pas dire une chose en même temps, poser des gestes qui confirment le contraire de l'intention que tu annonces.
Ça fait combien de fois que le ministre des Finances se présente au micro pour nous dire finalement les résultats financiers pour la province cette année sont surprenants. Ça a dépassé de loin nos attentes. On s'attendait d'avoir un déficit de temps. On a un déficit de temps. Là, la dernière fois, on devait avoir un déficit de 4,6 finalement. Ben,
l'argent nous sort par les oreilles.
Là, on dit, ah, ben oui, on va prendre ça puis on va le donner en chèque. Chacun un beau chèque.
Un chèque de 500.
Ouais.
Ou 250, on sait
s'acheter
pas.
Des Doritos, des souliers avec des lumières. Attends une minute. Tu sais, quand la mission de base n'est pas faite, c'est transport scolaire en ce moment, là. Pas capable de trouver des enfants handicapés. Des écoles pour les enfants handicapés sont loin de la maison parce qu'il n'y en a pas une à chaque coin de rue. Et là, si t'as pas le transport scolaire, ben là, tu viens littéralement d'empêcher un parent d'aller au travail. Donc, des domaines de la mission de base de l'État. Garde tes mots du chèque, garde-les pour toi, puis remplis ta mission de base.
Mais la pénurie d'enseignants, là, on dit entre 700 et 1400 enseignants, il semblerait qu'il manque dans le réseau. Mais les solutions, finalement, parce qu'on n'invente pas ça des enseignants, la solution est peut-être dans certaines règles qu'on devrait abolir pour créer un environnement plus intéressant pour les enseignantes et les enseignants qui souhaitent embrasser la profession, mais pour ceux et celles qui sont là, puis qui souhaitent rester.
On s'arrête là-dessus. Merci, on se retrouve demain.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.